Sœur Marie Martin, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Oui, bonjour monsieur.
Voilà, on est avec vous dans cette émission Sanctuaire et Communauté pour partir à la découverte, pour mieux connaître aussi les servantes des pauvres. Peut-être avant de commencer à en parler, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots à nos auditeurs.
Oui, donc je suis de la Congrégation des servantes des pauvres. Je fais partie de la communauté de Paris qui se trouve dans le 10e arrondissement sur la paroisse Saint-Joseph Artisan. Et notre maison mère est à Angers. Et nous avons en tout 8 communautés en France, une en Belgique, une au Sénégal et une en République démocratique du Congo. Alors nous avons été fondés en 1872 suite à la grande misère qui a suivi la guerre de 1870. Notre père fondateur était un moine bénédictin de l'abbaye de Solesmes, ce qui paraît un peu étrange pour des sœurs de vie apostolique, mais c'est comme ça, ce sont les plans du bon Dieu. Donc il avait eu toujours un très grand amour des pauvres, et surtout des malades en fin de vie qui mouraient tout seuls dans leur taudis, sans secours humain, spirituel. Et il avait toujours pensé qu'il aurait fallu des sœurs qui aillent s'occuper, qui aillent chez eux, dans leur domicile, pour leur rendre tous les services possibles, d'abord matériels, humains, et évidemment spirituels, hein, pour leur porter tout l'amour du Christ dans ces moments difficiles. Et après la guerre de 70, comme il se trouvait qu'il avait une maison disponible, celle de son père qui venait de mourir, il a mis cette maison à la disposition d'une communauté qui existait déjà et qui faisait ce genre de choses. Voilà comment nous sommes nés en 1872.
Alors, sœur Marie Martin, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus donc sur ce fondateur, Camille Leduc, c'est ça, moine de Solesmes?
Oui, c'est ça, oui. Donc il était de l'abbaye de Solesmes et il avait passé un certain nombre d'années en Italie, dans des monastères de Rome d'abord, et puis ensuite au Mont Cassin où il a été maître des novices et où il a acquis une belle expérience de formation à la vie bénédictine, aussi bien masculine que féminine, puisqu'il s'occupait aussi du monastère des Moniales qui se trouvait tout près du Mont Cassin. Et puis ensuite, il est revenu en France, dans son abbaye, et ça a été cette fameuse guerre de 70, et puis le début d'une aventure qui devait le mener là où il ne se doutait pas que le Seigneur le mènerait.
Et alors, sœur Marie Martin, quand on dit que vous êtes sous le patronage, vous me dites, si je me trompe, de Sainte Françoise Romaine, c'est ça?
Oui. Alors, Sainte Françoise Romaine était une épouse et mère de famille italienne, de Rome même, et elle était oblate bénédictine. Et elle avait un très grand amour des pauvres qu'elle secourait d'une manière vraiment admirable. Et notre père fondateur a voulu nous donner ce patronage-là parce qu'elle était à la fois bénédictine contemplative et elle avait une vie apostolique au service des pauvres. Elle tenait les deux, si vous voulez, dans un équilibre qui est fragile, délicat, mais qui peut très bien exister et perdurer solidement. Voilà pourquoi Sainte Françoise Romaine est notre patronne spéciale, après Saint Benoît évidemment.
Bien sûr, oui. Et alors, sœur Marie Martin, vous disiez donc en commençant, vous avez plusieurs implantations, vous êtes vous-même à Paris, hein, la paroisse Saint-Joseph Artisan.
Oui.
Vous êtes combien de sœurs présentes?
Alors nous sommes 9. Nous sommes 9, petite famille, puisqu'il y a tous les âges, de 90 ans à 28 ans. Voilà, c'est un bel exemple de la vie de famille qui, chez Saint-Benoît, est toujours très très forte et est un pilier vraiment de notre vie religieuse.
Et alors, comment s'organise justement votre vie de foi, votre vie religieuse, notamment là où vous êtes, dans cette paroisse Saint-Joseph Artisan?
Alors, nous avons d'abord notre vie liturgique qui est très très forte, bien sûr. notre vie de famille, et puis nous avons le service apostolique auprès des pauvres du quartier. Nous faisons le service à pied, donc nous n'allons pas très très loin, nous restons dans le 10e, et encore nous ne couvrons pas tout le 10e. Notre service consiste à aller dans les maisons, là où on nous demande, et puis là nous soignons et nous servons les malades pauvres et leurs familles. Alors nous les soignons, nous sommes, il y a parmi nous un certain nombre d'infirmières DE et d'aides-soignantes DE, et puis de toute façon même celles qui n'ont pas de diplôme, elles sont servantes des pauvres tout autant, hein, parce que notre service dépasse largement les soins infirmiers et nous répondons à tous les besoins qui se manifestent en fait. Aussi bien du travail ménager, des courses, vaisselle, cuisine, linge, enfin, des marches administratives pour lesquelles la plupart du temps les personnes âgées sont très très perdues. À l'heure d'Internet, elles sont vraiment démunies devant ça. Donc voilà un peu comment on s'organise notre service des pauvres. Alors à Paris, nous n'avons pas d'œuvre de jeunesse, mais nous en avons dans d'autres communautés. C'est toujours le même service des malades pauvres et de leurs familles. Alors nous penchons sur les enfants, les jeunes, à la fois pour les distraire, c'est par le biais des loisirs et de la distraction que nous essayons de les éveiller à la foi et à la prière. Donc ça se fait par des patronages, de l'éveil à la foi, des sessions d'enfants, d'adolescents et de jeunes filles. Alors les sessions ont plutôt lieu à la maison mère. Hein.
Oui.
Mais alors, parce qu'elles demandent quand même toute une organisation que nous aurions du mal à offrir en petite maison.
Et oui. Alors, Sœur Marie-Martin, quand vous allez justement au domicile des personnes qui sont dans le besoin, comment ça se passe? Comment se font les liens, les contacts?
Alors en fait, nous n'allons pas de nous-mêmes, nous attendons toujours d'être appelés.
Oui.
Alors nous sommes appelés parce que déjà nous sommes en habit religieux, donc dans les rues, comme nous sommes à pied, on nous voit circuler, on nous connaît comme le loup blanc, bien que nous soyons en noir.
Oui.
Donc on nous connaît, les voisins nous connaissent, les pharmaciens, les médecins, les assistantes sociales. Nous avons très souvent des malades qui nous arrivent par les assistantes sociales des hôpitaux lors d'un retour à domicile plutôt problématique.
Oui.
Quand les choses ne sont pas organisées, qu'il n'y a pas de soutien familial, qu'il y a un grand état de pauvreté, donc pas le confort qu'il faudrait pour un grand malade, enfin voilà.
Oui,
c'est
sait,
un peu comme ça qu'il nous est arrivé aussi d'être appelé par des voisins qui jusqu'ici rendaient les services qu'ils pouvaient. Et puis, à un moment, ils se disent « je suis dépassé, je ne peux plus, alors je vais appeler les sœurs ».
Oui. Et on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent isolées. Parfois, il n'y a plus de soutien familial du tout.
Oui. On lisait ce midi à la lecture au réfectoire que le pourcentage de personnes âgées qui n'ont plus aucun réseau, les réseaux habituels, c'est-à-dire famille, amis, les soutiens associatifs, les soutiens sociaux, aides ménagères, etc. Il y en a de plus en plus. Coupés de tout lien social.
Oui, c'est ça.
Oui.
C'est terrible. Hein, vraiment...
Oui. Ah oui, le dénuement des personnes âgées actuellement, c'est quelque chose. Hein.
C'est
et
vraiment,
de fait, la majeure partie de nos malades sont des personnes âgées.
Oui, c'est un fléau qu'on voit surtout en Occident, j'ai l'impression.
Oui, parce que dans d'autres pays qui ont gardé une tradition familiale très forte, les familles gardent leurs personnes âgées.
Et oui.
Oui, tandis que chez nous, les familles vivent de manière très, très réduite, si vous voulez. C'est vraiment quand il y a un cadre familial... ce qui est déjà bien, mais les personnes âgées ne sont pas intégrées dedans en général, hein,
oui.
Ou très rarement.
Sœur Marie-Martin, pour ce qui est ça, c'est, vous avez cette mission, donc, c'est votre apostolat, vous avez également comme sœur petite fille de Saint-Benoît, vous avez toute une vie centrée sur la prière, la contemplation, comment ça se passe?
Oui, alors nous, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons une vie liturgique très forte. Nous n'avons pas le grand office des moines et des moniales, bien sûr, parce qu'il nous faudrait des journées de 36 heures, parce que notre service est très prenant. Alors nous avons les deux pôles de l'office, l'eau des vêpres, nous avons vigile aux grandes fêtes, et puis l'office de Compli en fin de journée. Et puis en guise d'office du milieu du jour, nous avons la récitation commune et la méditation du rosaire, et que nous récitons ensemble. Alors ça, c'est quelque chose qui nous est propre.
Oui.
Et nous sommes très très attachés à notre chapelet récité en commun. C'est vraiment un temps de repos en mi-journée où nous pouvons confier à Notre-Dame tous les soucis et toutes les peines que nous avons rencontrées dans la matinée. C'est un temps de perfectionnement de la Lectio Divina que chacune de nous fait tous les jours aussi. Souvent, l'évangile du jour sert de trame à la méditation des mystères et ça marche toujours. C'est étonnant, mais ça marche.
Oui. Et oui, donc l'Eucharistie, la prière des heures, le chapelet psalmodié, je crois. Hein,
ça. Oui, tout à fait. Oui.
L'oraison silencieuse, la lecture spirituelle.
Alors, nous avons une heure d'oraison silencieuse tous les jours aussi.
Mm-hmm.
Et puis, alors, ce temps de Lectio Divina, alors là, qui est personnel, évidemment.
Oui.
Oui.
Un petit temps d'études.
Et puis alors, un temps hebdomadaire d'études. Oui, nous avons 2 heures d'études hebdomadaires pour approfondir la doctrine, l'écriture sainte, enfin...
Et alors, Sœur Marie-Martin, vous, tout à l'heure, on parlait de l'habit. Vous êtes très vite identifiée quand vous allez en déplacement, vous êtes dans les rues.
Oui.
Vous parlez d'un habit sombre. Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre habit? Qu'est-ce qui vous caractérise en tant que communauté religieuse?
Alors, nous avons un habit bénédictin, noir et blanc, mais un peu adapté à cause de notre vie active, pour pouvoir avoir, des coudées plus franches, pour pouvoir faire du vélo, pour pouvoir naviguer dans des appartements qui souvent sont minuscules, super encombrés.
Oui.
Voilà.
Par rapport aux différentes implantations dont vous avez parlé en début d'émission, est-ce qu'il vous arrive peut-être d'échanger, de vous déplacer ou de vous réunir aussi, peut-être une fois l'an ou je ne sais pas quelle fréquence avec les autres
Avec nos autres communautés, oui.
Oui.
Alors, nous avons nos retraites annuelles qui ont toutes lieu à la maison mère.
Donc à Angers.
À Angers,
oui.
et tout le monde y passe, tous les ans.
Ah oui, on ne discute pas, c'est hop.
Ah voilà, mais c'est-à-dire que je crois que personne n'aurait envie de discuter.
Oui, c'est une joie aussi de vous retrouver ensemble.
C'est une joie de nous retrouver, et puis ça fait un bien fou ces temps de retraite annuelle. Hein. C'est un rythme de rencontre avec le Seigneur, de repos en Dieu, c'est extrêmement précieux. Voilà, donc comme nous partons, nous avons 3 retraites par an, donc nous nous coupons à peu près en 3 dans chaque communauté, parce que nous ne fermons jamais la communauté, nos malades ne peuvent pas, bien sûr. Hein.
Et oui.
Il reste toujours 2/3 de la communauté pour s'occuper d'eux. Et nous nous retrouvons là. Les jeunes sœurs, elles ont des rencontres plus fréquentes, parce que comme elles sont en formation initiale, elles ont des sessions régulièrement pour elles, 3-4 fois par an, donc c'est aussi des temps de rencontres. Et puis, nous avons un autre genre de rencontre qui, lui, est moins fréquent, qui n'a lieu que tous les 6 ans, c'est le chapitre général, qui est vraiment la grande rencontre de notre vie religieuse. Mais alors, là, tout le monde n'y assiste pas, c'est simplement quelques-unes.
Et alors, sœur Marie-Martin, quand vous allez à la maison mère, est-ce que c'est à Angers même ou c'est dans les environs?
C'est un peu à la limite du côté de Trélazé, je ne sais pas si vous connaissez peut-être.
Hein. D'accord, c'est pas très loin de Solesmes ou...
C'est quand même à 1 heure de route
de
Solesmes.
C'est 1 heure de route, oui, d'accord.
Oui. Hmm. C'est pas tout à fait proche. Enfin, c'est un petit peu à la sortie d'Angers, si vous voulez. Alors, notre spiritualité, c'est d'abord Saint-Benoît, bien sûr. Hein. Et notre charisme, en fait, notre père fondateur n'a pas construit quelque chose de lui-même. Il s'est laissé guider par le Seigneur à travers les événements. Il a toujours été poussé par les événements. Il les a reçus comme venant de la Providence et notre charisme est très simple et très cohérent. Il y a d'abord ce service des pauvres qui, tel qu'il le concevait, est quand même exigeant parce qu'il voulait qu'on aille chez les pauvres, uniquement chez les pauvres, dans un service entièrement gratuit pour que nous ne soyons pas tentés de privilégier les personnes aisées parce qu'elles pouvaient rétribuer, vous comprenez. Donc c'est un service des pauvres, exclusivement les pauvres et entièrement gratuit, et une prise en charge complète, non seulement les soins infirmiers, mais tout le côté humain, familial, et puis les soins spirituels pour révéler aux pauvres l'amour du Christ et les conduire au Christ. Alors c'est un service qui est quand même très exigeant. Et donc cette petite communauté religieuse déjà existante dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait ça n'a pas marché. Parce que la formation des sœurs était insuffisante et la vie religieuse n'était pas suffisamment étayée. Alors, il y a eu un échec et notre père fondateur, Don le Duc, en échangeant avec l'évêque d'Angers, qui suivait de très près l'évolution de notre œuvre, ils sont tombés d'accord pour se dire qu'il fallait donner aux sœurs une règle solide, et comme celle de Saint-Benoît était celle que notre père fondateur connaissait la mieux, évidemment, il nous a donné la règle de Saint-Benoît.
Voilà.
Alors
oui.
Donc nous avons en premier, comme premier élément de notre charisme, ce service des pauvres très particulier. Ensuite, le deuxième élément, c'est la règle de Saint-Benoît. Et le troisième élément qui vient en dernier, auquel notre père fondateur n'a pas pensé dès le début, il est venu en dernier un peu comme une clé de voûte achève la construction d'une voûte, si vous voulez. C'est la pierre qu'on pose en dernier et qui assure l'équilibre et la stabilité de tout l'ensemble. Et nous avons aussi une clé de voûte spirituelle qui est exprimée par notre devise « J'ai cherché ton visage », le visage du Christ. Et justement, c'est cette recherche de la face du Seigneur qui assure l'équilibre de notre charisme. Parce que notre père fondateur avait toujours été très très marqué par ce verset de Matthieu 25, « J'étais malade et vous m'avez visité ». Et il pensait que on servait le Christ présent dans les malades, mais on ne pensait pas suffisamment à honorer le Christ dans les malades. Et après coup, quand il a vu naître notre congrégation et puis qu'elle a pris de la stabilité, qu'elle s'est enracinée, il s'est dit « mais la congrégation pourrait remplir ce rôle ». C'est-à-dire honorer le Christ dans les malades. Si bien que nous avons un service qui est quasi liturgique du pauvre.
Oui.
Nous efforçons de découvrir sous ses traits les traits du Christ souffrant et de l'honorer, de le respecter comme nous le ferions pour le Christ eucharistique à la chapelle. Voyez. Et ça assure une continuité entre notre vie liturgique et notre vie apostolique.
Oui, c'est pas du tout séparé.
C'est pas séparé, ça ne fait qu'un.
Ça ne fait qu'un.
Et c'est grâce justement à cette clé de voûte spirituelle, le culte et la dévotion envers le visage du Christ.
Oui, c'est ce que vous reprenez dans le psaume 26, le verset
voilà,
« C'est ta face ».
Voilà, c'est tiré du psaume 26, oui. « Quasi vultum tuum »,« J'ai cherché ton visage ».
Oui, c'est ta face, Seigneur, que je cherche.
Voilà.
Parce que vous avez, je crois qu'il y a un sceau de la congrégation également.
Oui, qui représente justement le voile de Véronique, c'est-à-dire la face du Christ souffrant.
Oui.
Et autour de ce sceau, il y a l'inscription « Quasi vultum tuum ».
C'est beau, magnifique.
C'est beau, oui. Oui, c'est très beau.
Et Sœur Marie Martin, si je me permettais, je vous demanderais aussi, en quelques mots bien sûr, de nous dire un petit peu, vous, comment est née votre vocation et comment finalement vous en êtes venue à faire partie de cette congrégation, vous-même.
Alors, à la fin de l'adolescence et au début de la jeunesse, bon, je me suis éloignée du Seigneur et j'ai ressenti au bout d'un certain temps un besoin impérieux de retrouver le Jésus Sauveur. Et la Providence m'a conduit, c'est vraiment des événements qui m'ont conduit moi aussi, des personnes, des événements, m'a conduit dans une communauté de jeunes, des jeunes étudiants et jeunes professionnels, une communauté chrétienne, et où on vivait très fort la liturgie et la vie fraternelle. Et cette communauté était animée par un prêtre, l'abbé Jean-François Guérin, qui est devenu plus tard le fondateur de la communauté Saint-Martin. Et c'est l'abbé Guérin qui m'a conduite, et il m'a fait connaître les servantes des pauvres. Il m'a fait connaître aussi une abbaye bénédictine, alors je suis allée dans les deux. J'étais extrêmement attirée par l'abbaye bénédictine, mais bon, je sentais bien que ce n'était pas ça quand même. Et le Seigneur m'a bien fait comprendre qu'il me voulait servante des pauvres.
Oui.
Voilà, alors je lui ai dit oui, et je ne le regrette pas. Faire, je le referai 1000 fois.
On a parlé de différents saints, bien sûr, toutes les fêtes religieuses importantes sont importantes pour votre congrégation.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a des saints plus particulièrement fêtés, importants pour
vous ? Alors évidemment, la Sainte Vierge qui a le premier rang partout.
Et oui.
Saint Joseph aussi. Nous honorons beaucoup Saint Joseph, Saint Benoît et Sainte Scolastique en tant que bénédictine. Sainte Françoise Romaine, qui est notre patronne spéciale. Et puis alors, les saints Pierre et Paul, à cause de l'attachement à l'Église.
Oui.
Parce que notre père fondateur tenait beaucoup à ce que notre congrégation soit d'Église et fermement enracinée dans l'Église. Alors, voilà, donc nous honorerons particulièrement Saint Pierre et Paul. Et puis alors, tous les saints dont la vie et l'œuvre est plus orientée vers le service des plus pauvres.
Bien sûr, oui.
Oui. Et alors, j'entends une affinité d'âme très profonde avec eux.
Une grande proximité d'âme, oui.
Voilà, c'est ça, oui.
Et Sœur Marie-Martin, est-ce que dans votre congrégation, il y a aussi des activités que vous proposez ou par exemple aussi des temps de retraite? Comment ça se passe?
Oui, alors à la Maison-Mère, il y a des sessions, des récollections qui sont proposées. Alors, pour les différentes tranches d'âge, les enfants, il y a deux sortes d'activités, soit une journée, soit un week-end, pour les adolescentes, et puis pour des sessions de discernement pour les jeunes filles de 18 à 35 ans, des jeunes filles qui se posent la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais rentrer dans la vie religieuse? Voilà, donc ce sont des sessions de discernement avec un encadrement spirituel adéquat pour pouvoir les aider, des temps d'enseignement, participation à la liturgie de la communauté, et puis au service des pauvres également, si elles le souhaitent. En général, un prêtre anime ces sessions pour les aider à voir plus clair, et puis il peut assurer le ministère de la confession. Voilà ce qui est proposé. Alors, dans nos petites maisons, c'est plus à la demande. C'est assez souvent que nous avons une jeune fille qui nous demande de passer soit une journée, soit un peu plus, pour vivre ce temps avec nous. Donc elle participe à la liturgie, elle vient au réfectoire avec nous, elle participe aux récréations, au travail manuel, et puis elle fait un tour des malades, elle va passer une matinée avec une sœur au service des malades. Voilà. Mais là, c'est plus à la demande, si vous voulez, c'est pas organisé d'une manière systématique.
Justement, Sœur Marie-Martin, dans les journées types qui sont les vôtres, comment ça se passe pour vous?
Alors, nous nous levons de bonne heure, bien sûr, à 5h30. Alors, nous commençons par les laudes, l'Eucharistie, et puis une demi-heure d'oraison silencieuse répartie avant et après la messe. Ensuite, petit déjeuner, et puis chacune de nous s'en va à son service. Alors, le service extérieur ou le service intérieur, parce qu'il y a des sœurs âgées ne participent plus extérieurement au service, mais elles assurent les emplois à l'intérieur. En fin de matinée, nous nous retrouvons pour le chapelet réciter et méditer ensemble. Ensuite, nous avons le repas. Nos repas se font en silence avec la lecture de table qui est faite par une sœur. Et un temps de récréation. Et puis, en début d'après-midi, nous avons les temps communautaires, les classes de chant, le planning pour l'organisation du service des malades où toutes les sœurs soignantes se retrouvent. Alors, on peut échanger sur nos malades, les difficultés, les choses qui vont bien, les choses à améliorer, et puis la répartition, etc. Ensuite, dans l'après-midi, nous avons une fois par semaine, un temps d'étude, le temps de lectio divina, le temps pour le travail manuel, et puis nous repartons en deuxième partie d'après-midi pour le service extérieur.
Oui.
Et puis nous nous retrouvons vers 18h15 à peu près pour encore une demi-heure d'oraison silencieuse et les vêpres. Le repas, encore un temps de récréation et puis l'office de complies qui termine la journée.
Alors on peut aussi indiquer aux auditeurs, vous avez un site internet qui est très bien fait, hein, qui détaille toutes vos missions, votre spiritualité, vos activités.
Effectivement, oui.
J'ai noté, c'est servante des pauvres au pluriel, hein, bien sûr, servante des pauvres tout attaché,
oui.
Tiré du milieu, OBS, OBS.
OSB.
OSB.
OSB, Ordre de Saint-Benoît.
Ah, c'est l'Ordre de Saint-Benoît,
oui.
J'ai mal lu. Alors, osb.org.
Oui.
Voilà, et là, effectivement, on peut découvrir...
Voilà, c'est ça, oui. Et puis, il est remis à jour assez régulièrement, donc il y a les choses actuelles, si vous voulez.
Oui, c'est ça.
Oui.
Et puis, en même temps, toutes les activités, toutes implantations confondues. Hein.
Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que, par exemple, nos maisons qui ont des patronages d'enfants, vous avez les activités de l'année. Ça dépend des maisons, c'est pas toujours le même jour. Parfois c'est le mercredi, parfois le samedi, ça dépend des communautés. Et puis vous avez le temps fort de l'été, le mois de juillet en général.
Oui.
Où là on a un mois de camp qui est organisé avec pas mal d'activités, des petites sorties, enfin un thème éducatif à la fois humain et spirituel, clos par un spectacle donné par les enfants et les animateurs. Voilà, mais il y a une structure chrétienne très forte parce que nous avons la chance d'avoir parmi nos animateurs un certain nombre de séminaristes.
Ah oui.
Donc ça, c'est très, très précieux.
C'est très enrichissant
oui.
Pour les deux, hein, les deux côtés.
Voilà, c'est ça. Eux, ils sont très contents parce qu'ils découvrent le monde des pauvres. Et c'est bon qu'un futur prêtre le découvre.
Et qu'il ait une mission concrète.
Oui. Voilà, c'est ça. C'est très concret, ça passe par les chants, les jeux, les mimes,
les rencontres.
Enfin, toutes ces choses-là. Hein. Voilà. Et puis, pour les enfants, c'est très précieux parce qu'ils peuvent donner une impulsion spirituelle vraiment bonne.
Bien sûr.
Oui.
Mais en tout cas, sœur, on arrive. Bon, le temps file, on arrive à la fin.
Oui.
Sœur Marie Martin, merci. Hein, en tout cas, merci beaucoup hein, pour nous avoir fait mieux connaître votre congrégation, Servante des Pauvres, Oblate Bénédictine.
Oui.
Merci beaucoup pour ce temps de partage.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie. C'était une grande joie de parler avec vous des merveilles du Seigneur.
Voilà. Merci infiniment.
Au revoir, monsieur.